matin, nous serons dans l'Épître aux Philippiens. Nous y étions il y a quelques semaines, pratiquement un mois maintenant, si mon souvenir est juste. Nous étions dans le chapitre 4, cette fois-ci, nous serons principalement dans le chapitre 2, en voyant un verset dans le chapitre 1. Et ce matin, je vais vous présenter un des versets les plus étonnants de toute la Bible. Un des versets les plus étonnants dans toute la Bible. Mais en fait, il faudra attendre la fin du message pour le voir ensemble. Parce qu'il faut poser un fondement avant de voir ce verset. Sinon, on risque de ne pas du tout comprendre le verset que nous allons voir. Mais pour commencer, donc, pour poser un peu ce fondement, Philippiens chapitre 2, permettez-moi de lire les 11 premiers versets. Les versets bien connus, mais suivez avec moi et réfléchissez bien à ce que Paul est en train de dire ici. Philippiens chapitre 2, les 11 premiers versets. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants que nous passerons dans ta parole, que tu guéris notre pensée, Seigneur, que ce soit toi qui travaille notre cœur et que tu continues de nous transformer. Et que tout soit à toi, pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom, nous prions. Amen. Replaçons-nous un peu dans le contexte. Vous le connaissez sans doute, Paul en prison. Il n'est pas à la plage quelque part, en vacances, en train de se bronzer au soleil, comme nous avons l'habitude de faire pendant l'été, n'est-ce pas? On prend des vacances, on est un peu à droite et à gauche, on change de rythme, on est souvent plus ou moins relax. C'était loin d'être le cas de l'apôtre Paul ici, il est en prison, sûrement à Rome. Et à partir de sa prison à Rome, il prend le temps d'écrire à ses Philippiens. Et ce qu'il est en train de leur dire ici, il y a pratiquement 2000 ans, bien sûr, est d'actualité pour nous. Parce que vous l'avez vu dans les quatre premiers versets, Paul est en train d'encourager et même commander à ses Philippiens d'être unis. On le voit au verset 2 surtout, prenez ma voix parfaite, ayant un même sentiment ensemble, un même amour, une même âme, une même pensée, c'est qu'il est d'unité dont Paul parle ici. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Paul, il parle de ce même amour, cette même pensée, ce même sentiment? Pourquoi est-ce qu'il parle de cette unité? Et il manifeste en lisant les Épîtres aux Philippiens que, malheureusement, il n'y avait pas une parfaite unité dans l'Église de Philippe. Sinon, Paul n'en aurait pas parlé. Il n'en aurait pas certainement pas parlé dans ces termes qu'il va employer ici. Mais Paul, il encourage les Philippiens parce que Paul se rend compte de l'importance de cette unité. Et puis, verset 1, commencé avec, on va dire, quelques suppositions. Il n'est pas convaincu que ceci est vrai, mais il souhaite que ceci soit vrai, que ceci soit vrai. Si donc, il y a quelques consolations en Christ, et là, il en est complètement convaincu, il y a le soulagement qui se trouve en Jésus-Christ, cette consolation, cette idée d'être, oui, d'être consolé alors qu'on traverse des moments difficiles. Si donc il y a quelques consolations en Christ, et il y en a, s'il y a quelques soulagements dans l'amour et qu'elle souhaite qu'il en ait, s'il y a quelques communions d'esprit, donc qu'il y ait des communions entre les frères et sœurs, et encore une fois qu'elle souhaite que ce soit le cas, mais il n'en est pas tout à fait convaincu que ça se passe chez les Philippiens, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, et si ces choses sont présentes chez vous, Philippiens, et on connaît notre nom, chez nous, chrétiens, deuxième nom, et c'est là où nous allons pouvoir rendre la joie parfaite. Paul, en entendant parler de cet amour, de ce soulagement, de cette compassion, de cette miséricorde au milieu des Philippiens, sa joie à lui, à Paul, serait parfaite, c'est-à-dire complète, ne manquant de rien. Il lui rendait ma joie parfaite. Et puis, il a parlé de ce même sentiment. Et il est, en ayant, directement, le même sentiment. Puis, verset 3, il va dire, oui, ne faites rien à l'esprit de partir par une gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ce des autres. Non pas qu'on soit préoccupé toujours avec les affaires des autres, d'abandonner là où il ne faut pas. Non, c'est pas l'idée de ce que Paul dit ici. Et ce n'est pas s'occuper des autres au défendre de soi-même, non, mais c'est bien un équilibre. On ne soit pas égoïste, toujours en train de penser à nous-mêmes, mais également aussi, comme il va dire, de penser aux autres, c'est le principe de l'amour. Puis verset 5, nous allons retrouver ce même terme. Ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les sentiments. Et cette idée d'avoir ces sentiments, à la fois déjà verset 2, maintenant on revient verset 5, Paul apparemment veut insister là-dessus. Il fallait que les chrétiens de Philippe comprennent, et peut-être pour nous aujourd'hui, mais il nous faut comprendre, il nous faut aller plus loin dans cette idée, ayez en vous les sentiments. Et on voit, à travers la manière dont Paul il va dire ceci, c'est assez intéressant la formule qu'il emploie. Parce que c'est un impératif, donc il dit ayez les sentiments, mais c'est un impératif à la voix passive. Et là on se dit, mais ok, comment est-ce que je peux impérativement avoir quelque chose qui se fait à moi? Parce que la voix passive, bah, on suit quelque chose, n'est-ce pas? Donc, impérativement, je suis quelque chose. Et c'est plus ou moins le sens que Paul voulait exprimer. Il a reconnu que ceci ne venait pas des chrétiens de Philippe eux-mêmes. Non, c'était quelque chose qui était fait à eux, mais il fallait quand même qu'ils laissent cela se passer dans leur vie. Et littéralement, ce que Paul a dit, c'est continuer de laisser ceci arriver. C'est l'idée de l'action continue qu'il emploie, et c'est vrai que c'est au présent la formule qu'il emploie. Continuez à avoir en vous ou laisser venir en vous ces sentiments. C'est l'idée, si on veut rallonger un peu, c'est tout ce qui est contenu dans un seul mot grec. C'est grâce du mot grec, mais c'est un seul mot grec. En français, pour bien comprendre cela, continuez de vous laisser, on peut dire remplir, remplir de ces sentiments. Et puis, bien sûr, il va montrer quel sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les plus nobles, les parfaits, les sentiments parfaits. qui est tellement important pour nous parce que malheureusement nous avons tendance à avoir en nous des sentiments qui ne sont pas conformes aux sentiments de Jésus-Christ. Parfois nous avons des sentiments de colère. Ceci m'arrivait tellement souvent avec mes frères. Vous pouvez bien imaginer. Mais souvent, parce qu'ils me taquinaient, parce qu'ils m'embêtaient et tout, souvent, je l'avoue, j'avais des sentiments de colère. Donc, les choses arrivent dans notre vie, n'est-ce pas? Quelqu'un est en voiture, quelqu'un passe devant nous, quelqu'un n'est pas senti longtemps au rond-point, quelqu'un fait quelque chose qui nous semble tellement ridicule et on se met un peu en colère, on a un sentiment de colère. On peut avoir des sentiments de frustration. On aimerait que les choses soient d'une façon, mais elles ne le font pas, et du coup, on est frustré. Sentiment de frustration. Sentiment de déception. On attend quelque chose de quelqu'un. On aimerait que quelqu'un fasse quelque chose, dise quelque chose, se comporte d'une telle ou telle façon. Et non. La personne ne le sait pas. La personne ne le soit. Et du coup, on a un sentiment de déception. Et on pourrait multiplier les exemples de sentiments qui ne sont pas conformes aux sentiments de Jésus-Christ. Et Paul, ici, il reconnaît l'importance pour les chrétiens de changer le sentiment, d'avoir de nouveaux sentiments, des sentiments renouvelés, si on peut dire. Et il dit, ayez en vous ces sentiments. Ce n'est pas une option. C'est pas simplement, ce serait pas mal si. Si vous y pensez, si ça vous change, si vous avez la possibilité, si vous avez le temps, non, il dit, ceci doit être continuellement votre état d'esprit, ceci doit continuellement être en vous, ceci doit être votre recherche continuelle à travers chaque instant de votre journée. Il dit, ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ. Et son rappel était nécessaire pour les Philippiens, parce qu'à ce moment-là, ils ne manifestaient pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ils manifestaient des sentiments de rivalité, des sentiments de rebelle, des sentiments de dispute. Il y avait certains sentiments qui n'étaient pas du tout conformes à Jésus-Christ. Et Paul était obligé un peu à les rappeler à l'ordre et dire, ces sentiments-là, non, il ne faut pas. Il faut changer de sentiment, il faut avoir des sentiments nouveaux. Et laisse-moi un rappel pour nous. Parce que nous voyons les gens autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou non, qui ne manifestent pas les sentiments de Jésus-Christ. Et on commence à croire que ça c'est normal. Que les sentiments de frustration, les sentiments de colère, les sentiments de déception, de dépression et autres sont normaux. C'est vrai que par moments on passe par ces choses, mais dit d'honorer. Non, 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 non. Pour ici, il est catégorique, il est dit, ayez en vous les sentiments qui avaient en Jésus-Christ. Et cela n'a pas changé depuis 2000 ans. Ceci n'était pas simplement pour les Philippiens. Et non pas pour nous aujourd'hui. Ça l'est pour nous aujourd'hui. Il s'agit pour nous, chrétiens, réellement, si nous avons accepté Jésus-Christ par un acte de foi personnel à un moment donné, de choisir d'avoir en nous des sentiments de Jésus-Christ, pour rechercher de nouveaux sentiments. Non pas des sentiments qui viennent du monde, non pas des sentiments qui viennent des circonstances, un peu comme on en a parlé la semaine dernière avec Joseph, mais des sentiments qui étaient et qui d'ailleurs demeure en Jésus-Christ. Et c'est extrêmement difficile parce que, comme je dis, nous voyons de mauvais exemples autour de nous tout le temps. Mais nous avons l'exemple parfait en Jésus-Christ, dans sa parole. Paul relève dans les versets qui suivent quels étaient ses sentiments. Déjà, il a un sentiment d'humilité. Bien sûr, il en parle depuis le début du chapitre, mais maintenant on arrive concrètement à ce que cela veut dire. L'esthétique existant en forme de Dieu. C'est-à-dire littéralement Dieu. Imaginez-vous cela. Si vous pas parce que moi je n'en ai pas. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, existant en forme de Dieu depuis toute l'éternité, avant que quoi que ce soit ne soit créé, il y avait Dieu. Et alors, Dieu qui suffisait en lui-même, ce grand Dieu de toute éternité, de tout temps, Jésus-Christ est ce Dieu. Et pour lui, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose auquel il devait s'attacher absolument. Non. Il dit, Jésus-Christ, depuis toute éternité, Dieu lui-même, existant, une réalité, il s'est dit, même si je suis Dieu, même si je suis au-dessus de toute chose, je contrôle toute chose, ben, je vais m'humilier. Et je ne tiens pas absolument à cette idée de Dieu. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de m'adresser, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'était pas au-dessus de cela, non. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, cette forme d'un homme, ce corps humain qu'il a obtenu au moment de son incarnation, et essayez de vous imaginer la place la plus éminente, la plus grande place, la plus haute autorité, toute la puissance au monde. Et là, vous devez vous limiter. Jésus-Christ est omniscient. C'est la réalité de toutes choses. Et pendant sa vie sur Terre, il y avait des choses que Jésus-Christ ignorait. Vous imaginez? À un moment donné, il sait toutes choses. Et puis pendant une période limitée, il y avait des choses qu'il ignorait. Là, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la frustration. N'est-ce pas? De savoir toutes choses, et puis à un moment donné, il y a des choses qu'on ignore. On ne sait pas. Vous pensez que c'était frustrant, ça? Je crois que oui. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a parlé et le monde est venu à l'existence. Et puis, pendant qu'il était sur Terre, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Certes, il a accompli des miracles. Il a fait un grand nombre de choses. Mais il y avait des choses qu'il était incapable de faire. Et il a choisi volontairement. Imaginez avoir toute la puissance du monde, et puis pendant un certain temps, la personne est incapable de faire certaines choses. Encore frustration, vous imaginez. Pendant toute l'éternité, il ne souffrait d'aucun manque. Il n'avait jamais faim, il n'avait jamais soif, il ne se fatiguait pas, du tout. Et puis, pendant sa vie sur Terre, il avait faim. Il avait soif. Il était fatigué par moments, la Bible nous le dit. Pourquoi Jésus, ben, il était épuisé, au point où sa mère, ses frères, ben, ils avaient peur qu'il allait s'épuiser totalement. Ils disent, mais il est fou. Il ne prend pas le temps de dormir, de manger. Mais Jésus, il était fatigué à un moment. Il avait peur, il avait soif. Alors qu'il n'avait jamais connu de manière expérimentale ces choses. Et là, pendant la vie, il va expérimenter cela. Imaginez-vous l'humilité que cela a dû, que Jésus devait avoir pour s'abaisser à ce moment-là. Nous, à sa place, si on bénéficiait de la toute-puissance, de l'omniscience, on aurait dit, mais moi je veux rester tranquille là. Non, je veux conserver toutes les choses. Même si c'est juste pendant une petite période, quelques années, qu'est-ce que c'est qu'on parlait à l'éternité, mais même pendant ces quelques années, moi, je ne veux pas. Et Jésus-Christ, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Verset 8, il s'est humilié lui-même. Le Père ne l'a pas obligé. Le Père ne lui a pas tordu le bras en disant, mais mon fils, tu le feras. Non, non, non. Jésus-Christ, bien sûr, en parfaite harmonie avec le Père, s'est humilié. créé cette forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, parce qu'il était vrai homme. Tout par exemple, vrai Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Et pour cela, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Jésus-Christ avait ce sentiment d'humilité. Il était dans la réalité au-dessus de tout être humain. Mais est-ce qu'il s'est comporté comme cela? Est-ce qu'il a dit, tout le monde doit m'adorer, tout le monde doit s'agenouiller devant moi, tout le monde doit me respecter, tout le monde doit me parler avec déférence? Non. Même s'il était en réalité au-dessus de tout, non, il s'est comporté comme serviteur. Il s'est humilié. Voilà le sentiment qui est en Jésus-Christ. Du verset 8, oui, il s'est humilié, mais il s'est rendu obéissant. Voilà la mot-clé. Voilà le mot-clé. Obéissant. Il s'est rendu obéissant. Pas simplement pour venir sur la terre, quitter la gloire céleste, laisser de côté certains de ses attributs, se limiter pendant un certain moment, son obéissance n'allait pas jusque-là. Jésus-Christ ne l'a pas dit, il allait jusque-là, mais pas plus loin. Oh, ça suffit maintenant. Il est donné. Non, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Non pas une mort quelconque, mais une mort sur la croix. Une des morts les plus terribles qui existait à l'époque. Cette mort a été inventée spécifiquement pour punir les pères criminels. Et Jésus-Christ l'a subi. Ce n'était pas une mort douce, comme on dit, il n'y a pas de mystère un peu dans le sommeil, comme pour certains. Non, non, non. C'était une mort d'agonie qui a souffert pour nous. Et ce n'était pas un accident. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas dans ce sens comme certains l'ont appelé une mort bête. Mais Jésus-Christ aurait pu éviter. Non, non, non. Il a subi volontairement. Et il est allé, il était obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas dit jusque-là, mais pas plus loin. Il n'a pas dit, non, c'est trop loin, je peux faire certaines choses, mais quand même, pas ça. Non, il avait ce sentiment d'obéissance qui a fait qu'il a agi de manière obéissante. Cela a commencé dans son cœur, et bien sûr, cela s'est produit dans les actions. Ce sentiment d'amour qui était en lui. L'évangile des gens ne cesse de parler de cette idée d'amour. Cet amour qui existe entre le Fils, Jésus-Christ, le Père. Cet amour que Jésus-Christ avait pour ses disciples. Cet amour qui doit exister entre les disciples de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas l'amour, si c'était le simple pouvoir qui l'a poussé à venir ici sur la terre et à mourir, il n'aurait jamais fait. Mais c'est cet amour qui l'a poussé à mourir pour lui. Il n'a pas simplement fait parce qu'il n'a pas lu. Ah bah, ils seront perdus pour toute l'éternité s'il ne le fait pas. Donc, bon, d'accord, je ne veux pas trop, mais je le ferai. C'est mon devoir, il le faut. Elle n'était pas du tout le sentiment de Jésus-Christ. Non, avec larmes, il est allé jusqu'à la croix pour nous, à cause de son amour. Il nous aimait. Il pensait à chacun de nous sur la croix. Voici la grandeur de son amour. Du coup, voilà le sentiment qui était en Jésus-Christ qui doit être en nous. Cette humilité dont Paul parle dans ce premier verset de chapitre 2. Cette humilité qui nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Combien de fois avons-nous cette pensée? Voilà mon frère, ma soeur, un tel, une telle. Je vais le regarder comme au-dessus de moi. Au lieu de penser avec de celui ou celle qui est en face. Non, du tout. L'ordre de Dieu est clair, l'humilité envers tous. Qui le mérite à nos yeux ou pas? Et puis, l'obéissance. L'obéissance, pas simplement lorsque nous pensons que cela est juste. Non simplement lorsque nous comprenons. Non simplement lorsque nous sommes d'accord. Mais une obéissance complète jusqu'au bout. Nous n'avons pas le droit de dire « J'obéirai jusque-là, mais pas plus loin. » Dieu, là, tu demandes le trop. Là, je ne peux pas. Là, Dieu, c'est pas raisonnable, quand même. Jésus-Christ n'a pas eu ce sentiment-là. À nos yeux, la mort de Jésus-Christ pouvait sembler irraisonnable. Mais il a fallu que Jésus-Christ passe par cela. Et parfois, les choses que Dieu demande de nous, dans sa parole, peuvent nous sembler irraisonnables. Mais ce n'est pas à nous de juger. À nous d'obéir, d'avoir ce sentiment d'obéissance dans notre vie, d'être prêt à dire oui. Seigneur, même si je ne comprends pas tout, même si au début je ne suis pas d'accord, je vois ta parole dit vrai, alors j'obéis. Alors je vais le faire. Je vais changer. Et puis ce sentiment d'amour dans notre vie. Cet amour qui est loin d'être un simple sentiment, mais un amour qui nous pousse à l'action. Si l'amour de Dieu n'est resté qu'un simple sentiment en lui, sans conséquence dans la réalité et dans notre vie, Jésus-Christ ne serait jamais venu sur la terre. Nous n'aurions jamais eu la possibilité d'être sauvés. Si l'amour n'est resté qu'un simple sentiment dans ta vie, mais non, ce sentiment l'a poussé à agir. L'a poussé à venir sur la terre, subir les injures, subir l'incompréhension, subir la moquerie, subir la mort par amour. Et notre amour pour les autres, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que notre amour pour les autres nous pousse à agir ou pas? Une question à se poser. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté par la foi Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous avons le devoir, la responsabilité d'avoir de nouveaux sentiments, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et oui, c'est difficile, nous voyons tant de mauvais exemples autour de nous. Notre propre cœur nous fait défaut, tant de fois. Mais cela n'est pas impossible parce que Jésus-Christ nous montre un chemin et nous appelle à le suivre sur ce chemin. Et puis, bien plus que cela, nous voyons que Dieu, lui, nous va récompenser. Alors, regardez verset 9. Lorsque Jésus-Christ a accompli parfaitement tout ce que le Père lui a demandé, parce qu'il avait ses sentiments en lui, regardez, c'est pourquoi un petit mot de trois lettres en temps, mais qui est rempli de sens, le but, c'est pourquoi. Voilà la raison aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que Dieu a fait pour son propre Fils, parce que son propre Fils a eu ses sentiments d'humilité, d'obéissance, d'amour. Il a élevé, il a exalté, il a ressuscité les morts, vous imaginez? Et maintenant, il a cette place de gloire auprès de son Père. Jésus-Christ est là, il se tient à la droite du Père. Et un jour, comme Paul le dit, tout genou fléchira, qu'il le veuille ou pas. Ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme leur sauveur le feront de manière volontaire. Oui, ils reconnaissent avec action de grâce, Dieu m'a sauvé, gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ben, ils le verront, mais malgré eux. Mais tout genou fléchira, toute langue confessera que c'est merveilleux que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. que nous, si, encore une fois, et c'est la condition de la vérité, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes enfants de Dieu, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères, et nous pouvons faire pareil. Nous pouvons refléter la gloire de Dieu, nous pouvons pousser les gens à glorifier Dieu, et un jour, nous dirons avec des millions, voire des milliards de gens, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu le Père, par Jésus-Christ, et nous pouvons bien faire cela aujourd'hui, à condition que nous ayons ces nouveaux sentiments. C'est le sentiment qui était en Jésus-Christ. Parce que si nous avons des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ, si nous avons et nous gardons la frustration, la colère, la déception, tous ces sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ, nous serons incapables de glorifier Dieu. Dieu n'est pas du tout glorifié et exalté par ces sentiments-là. Lorsque nous sentons ces sentiments venir dans notre cœur, il faut demander à Dieu, il faut venir devant Dieu, dans la prière, et Dieu enlève ces sentiments. Remplace-les avec d'autres sentiments. Je ne veux pas ces sentiments qui ne sont pas selon toi, qui ne te plaisent pas, qui ne m'aident pas à te glorifier. Je ne les veux pas. Change-moi, Seigneur. Je veux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De pouvoir remplacer ces sentiments, ça vient à nous. Nous en sommes incapables. Par nous-mêmes, nous avons de mauvais sentiments. Nous avons ces sentiments que j'ai décrits. Comme nous, comme ceux qui ne se tournent pas vers Dieu. Cela ne vient pas de nous. Et voilà pourquoi nous revenons au verset 5. Ayez en vous, c'est-à-dire laissez Dieu par son Saint-Esprit agir dans notre cœur, dans notre vie, pour avoir ces sentiments que lui nous fait. Non pas les sentiments naturels qui vient des circonstances et toute autre chose, mais les sentiments qui étaient et qui demeurent en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous serons unis. C'est ainsi que les quatre premiers versets de ce passage prennent toute leur ampleur. Parce que c'est uniquement en ayant les sentiments qui sont en Jésus-Christ que nous serons unis, que nous aurons un même amour. Parce que si chacun cherche son propre amour, on sera désunis. Chacun de son côté, on n'aura pas la même pensée. On n'aura pas les mêmes sentiments. Mais si nous cherchons tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, là, nous aurons le même amour. Parce que l'amour de Dieu est un. Cet amour agapé. Nous n'aurons qu'une seule pensée, c'est-à-dire glorifier Dieu. Nous n'aurons qu'un seul. Oui, une seule pensée, un même amour. Nous serons unis. Et du coup, verset 3 et 4, nous n'aurions pas le problème. On n'aura pas du tout envie de chercher sa propre gloire, ses propres intérêts d'abord, non. On aura une instinctive. C'est ce désir, cette volonté de chercher les intérêts des autres. Mais uniquement lorsque nous sommes remplis des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et cela change tout notre optique. Tout est changé à ce moment-là. Du coup, on revient au verset 1. Si donc, il y a quelque consolation en Jésus-Christ, oui. Il y en a, à condition que nous ayons ces sentiments, non ? S'il y a quelque soulagement dans l'amour, oui, un soulagement parce que cet amour vient de Dieu, et cet amour nous pousse à agir pour les autres. S'il y a quelque communion d'esprit, pas simplement notre esprit en nous, mais le Saint-Esprit qui nous dirige, et qui nous lie les uns aux autres, quelque compassion pour ceux qui traversent les difficultés. Avoir un autre regard, combien de fois l'Évangile nous parle de ce regard de compassion que Jésus a. lorsque nous avons ces sentiments, nous aurons ce regard de compassion. Quelle miséricorde. Souvent, les gens, ils méritent soit la correction, ils méritent, parfois on dit, ils ont ce qu'ils ont mérité. Oui, mais la miséricorde. Ne pas recevoir ce que nous méritons. La grâce, souvent, il est écrit qu'on recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, ne pas recevoir ce que nous méritons. Et quelle miséricorde. D'agir comme cela, entre nous, voilà l'implication d'avoir des sentiments de Jésus-Christ. Et cela, entre nous. Parce que par ce moment-là, nous aurons un témoignage éblouissant aux yeux du monde. Parce que nous serons tellement différents, le monde n'agit pas du tout comme cela. Le monde cherche ses propres intérêts. Et même des chrétiens qui ne suivent pas le Seigneur, qui ne marchent pas pour le Seigneur, ben, ils vont agir pour leurs propres intérêts. Mais un chrétien qui cherche les intérêts de Dieu, ben, va chercher les intérêts des autres également. Et va agir avec cet amour. Je vous ai dit que ce matin, on allait voir les versets les plus bouleversants de la Bible. Et il nous fallait poser ce fondement d'abord, parce que ce sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ qui nous aident à comprendre ce verset que nous allons voir pour terminer ici ce matin. Remontons dans le chapitre 1 et le verset 29. Et cela vient de Dieu. Arrêtez votre cœur là, ne regardez pas la lettre du verset, s'il vous plaît. Et cela vient de Dieu. Et on va dire, oui, toute chose vient de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Cela vient de Dieu, oui. Alors, continuons notre lecture. Car il vous a été fait la grâce, oui, amen, Dieu le trouve digne. Par rapport à Christ, oui, tout est en lui, non seulement de croire en lui, mais si nous avons cru en Jésus-Christ, pour le salut, amen, gloire à Dieu, cela vient de Dieu, on le reconnaît, on remercie Dieu, mais pas seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La souffrance des chrétiens ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Un des plus grands mensonges de tous les temps. Oui, Dieu permet à ses enfants de passer par les souffrances. Si vous croyez autrement, vous n'avez pas bien lu votre livre. Est-ce que cela veut dire que c'est facile? Absolument pas. Non, comprenez-moi bien. Mais l'optique de l'apôtre Paul est ici, sans être dans notre monde. Il vous a été fait la grâce de souffrir avec ses enfants, selon le latin. Et pourtant, avec la base que nous avons posée du chapitre 2, nous pouvons comprendre que oui, Jésus-Christ a souffert, n'est-ce pas? Était-il dans la frustration? Était-il dans la rancune, dans la haine? Dans la colère? Dans le mécontentement? Dans l'incompréhension? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit même sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'agonie la plus atroce, il est prêt à pardonner. Et Paul dit ici, cela vient de Dieu. Notre souffrance, nos peines, nos fardeaux, nos épreuves, n'échappent pas à Dieu. Dieu est assez puissant pour les arrêter, s'il voulait. Mais s'il y a quelques souffrances, s'il y a quelques difficultés dans notre vie, soyez assurés d'une chose. Dieu le sait. Dieu ne l'ignore pas. Et si Dieu avait voulu, il aurait pu l'arrêter. Mais il a voulu. Vous allez dire, mais c'est pas juste à dire ça. Pas du tout. Dieu veut nous voir grandir. Et il sait pour nous aider à grandir, par moment, il nous faut passer par ces souffrances. Et Paul dit, cela vient de Dieu. Selon le contexte, Paul savait très bien de quoi il parlait. Il avait été battu de rien. Il avait été lapidé, jeté en prison. Les gens n'avaient pas du tout compris son ministère. Au départ de son ministère, on croyait que c'était un faux disciple qui était là juste pour espionner et pour enchaîner les chrétiens. Il avait fait naufrage. Il allait être une deuxième fois en prison. Rejeté des Juifs, pourchassé par les Romains. Et il peut dire, même en faisant cela, le bien de Dieu. Pas simplement de croire en Dieu, de voir à Dieu. Quand tout va bien, on est prêt à dire, oui, Dieu agit, Dieu bénit, gloire à Dieu. Quand ça va mal, on dit, mais Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et pour le dire, bon, cela vient de Dieu. Vous avez reçu cette grâce de croire en Dieu, oui, amen. Mais aussi, vous avez reçu cette grâce de souffrir. Et Paul, il a très bien compris ce qu'ont compris les premiers disciples, les apôtres, où, en revenant d'une des multiples fois où ils ont été battus et interrogés devant le Saint-Lévin, ils sont revenus et ils ont loué et glorifié Dieu d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour Christ. Quel motif ? Quel sentiment ? Des sentiments surnaturels, parce que cela ne vient pas de nous. Cela ne venait pas de Paul, ni des Philippiens. Cela vient de Dieu. Et oui, il y a des difficultés dans la vie. Des difficultés personnelles. Des difficultés familiales. Professionnelles. Des difficultés, on va les appeler ecclésiastiques, ce qui est lié à l'Église. Toutes sortes de difficultés par lesquelles nous pourrons passer. Petites difficultés, de grandes difficultés. Et à chaque fois, de se rappeler que Dieu est là. Dieu ne nous a pas ruinés. Dieu n'était pas impuissant pour ne pas arrêter quelque chose qui arrive dans notre vie. Non, 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 non. Et malgré le manquement des autres, malgré ce que font les autres, malgré même parfois nos manquements, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout ce qui est parfois le monde, et en dépit de tout cela, Dieu reste quand même souverain. Dieu est en train de travailler. Et c'est le verset 29 du chapitre 1, avec la base, comme j'ai dit, que nous avons posée du chapitre 2, change notre optique. Et doit nous pousser à demander à Dieu de nous changer. Parce que si nous étions honnêtes ce matin, combien d'entre nous pourrions dire, oui, de manière régulière, je manifeste les sentiments de Jésus-Christ. Je les manifeste autant que je souhaiterais. Je crois qu'il n'y aurait aucun ici. Souvent, nous manifestons d'autres sentiments. Et nous n'avons pas l'optique de Paul en disant cela vient de Dieu. Peu importe. Dieu ne s'est pas trompé. Et voilà ce rappel. Donc moi, j'ai besoin, en chacun de nous, avons besoin aujourd'hui. Parce que nous vivons dans un monde qui se perd sans Christ, qui va de plus en plus loin dans sa méchanceté, dans son péché, qui s'écarte de plus en plus de Dieu. Nous vivons dans ce monde, c'est une réalité. Mais cela ne doit pas nous pousser à la dépression, à la frustration, à la confiance, non, 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 cela va nous pousser à avoir ces sentiments, à la fois de compassion, mais aussi d'amour. Tous ces sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Et cela doit être notre prière. Nous n'en sommes pas capables de nous-mêmes. Impossible. Même si notre volonté est là, nous sommes incapables. C'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui travaille à travers nous. Il faut lui demander, il est prêt à le faire. Il attend que ça. Mais il faut lui demander, faire la prière. Seigneur, change mes sentiments. Donne-moi ces nouveaux sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je veux les manifester parce que cela te glorifie, parce que je m'approche de toi, parce que j'aide ceux qui sont autour de moi. Voilà ce qui doit être notre prière aujourd'hui, mais aussi tout au long de chaque journée de notre vie. Il faut renouveler cette prière. Le verset 5 commence avec ce mot, la ayez en vous, oui, continuellement. Je vous le dis, c'est continuellement, c'est pas une fois pour toutes, c'est très bien, mais ce n'est pas le temps de Dieu, non, c'est continuellement. Reformuler cette demande en disant, je veux que tu me remplisses de ces sentiments qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce que je l'attends de nous. Il a prêt, il a la capacité. C'est nous qui devons demander pour qu'il me remplisse de ces sentiments. Le voulons-nous? J'espère que oui. Allons-nous lui demander de le faire? Enfin, j'espère également que chacun fera cette décision aujourd'hui et finir pendant toute notre vie pour la gloire de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Nous n'agissons pas, nous n'avons pas toujours les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de nous laisser remplir par toi, par ces sentiments. Change-nous, Seigneur. Nous puissions manifester pour ta gloire et par ta puissance ces nouveaux sentiments, afin que nous ayons un meilleur témoignage, afin que les gens puissent nous regarder et te voir. Et Seigneur, que tu nous aides à avoir cette communion, cette unité entre nous, entre tous les frères et sœurs en Christ. Et Seigneur, que tu puisses recevoir tout l'honneur et toute la gloire parce que c'est toi